de recevoir à nouveau le Rav Benarouche. Je crois que c'est un sujet de courageux, on a fait ça. Courageux qui s'associe à deux actions essentielles. Hein? Le jeune homme, courageux. On s'associe à tous les autres à deux actions essentielles, qui se dit par deux verbes, les nakot. Je dis que non. Mais quand par hasard on dira le rat, ce sont les mêmes. Alors peut-être qu'il y a une explication. Quand Dieu nous soit les nettoyés, ce sont les deux actions essentielles. Bon, nettoyage, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais le nettoyage, c'est ça qui est très important au niveau alimentaire, c'est les petits qui passent par la bouche. Non, tout le monde est un peu là, à part les bons plats, etc. Mais le produit célèbre, tout va dans la bouche. Toute l'expérience de ce ça passe dans la bouche. Parce que sinon, c'est par les paroles qui en sortent. C'est pourquoi, sans autre condition, je donne la parole au rage dans la bouche. Je ne vous fais pas l'offense de vous le présenter à nouveau. Bon, allez. Rapidement, le Rav Benarouche, il est international, il fait des toiles magnifiques, et il donne des cours de Torah, un peu partout, des conférences, il a reçu un ou plusieurs bouquins, en tout cas moi j'en connais un. 15. Il en manque 14. Voilà, donc, et chaque fois que le Rav Benarouche vient, on va se dire que il nous apporte un supplément d'âme, hein, et un supplément de Nina, au sens pas galvaudé, quoi, et Nina immune de confiance. Voilà. Et voilà, donc c'est tout, je crois qu'il y a tant de plus. C'est lui qui va prendre la parole ce soir pour nous parler de la parole.
C'est bon. Là-bas, ça vous va comme ça? C'est pas la peine de parler au micro. Je vous remercie aussi de m'accueillir une fois de plus. Et l'un des sujets principaux de cette fête, de ce point culminant dans le calendrier hébraïque, c'est justement Pessah. Je vous rappelle que le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps était compté à partir de Tishré. C'est-à-dire qu'on allait vers l'hiver. On allait vers le noir. Le monde était fini. Le jour de la sortie d'Égypte a donné naissance à une nouvelle ère, l'ère de l'optimisme. On appelle ça la fête du printemps. Aujourd'hui, on essaye de nous imiter. Il y a des printemps à droite à gauche, mais si ça fait des printemps, je me demande ce que sera l'hiver. En tout cas, le premier printemps de l'histoire, c'est Israël qui l'a reçu. C'est pour ça que Pessah s'appelle Chag Ha'aviv, et que nous faisons tout pour rectifier le rythme solaire par rapport au rythme lunaire. Et c'est pour ça que tous les 4 ans, nous avons une Shana Me'uberet, une année bissextile, qui va rattraper en fait les deux cycles, et que nous ne sommes pas comme les religions qui, en fait, le Ramadan, par exemple, chez les musulmans, se passe tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas de rattrapage, ils ne vont que par la lune, la chrétienté, elle, ne va que par le soleil, et nous, comme d'habitude, nous sommes toujours au centre des deux. Pas par hasard que les uns fêtent le vendredi et les autres le dimanche. Et nous sommes au centre, toujours. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a l'intelligence de faire le lien entre certaines extrémités pour trouver un équilibre parfait qui est très fragile, mais qui est en réalité l'équilibre dans lequel nous vivons. Alors le thème de ce soir, des attentions que j'ai voulu traiter, c'est en fait l'exil et la délivrance du Verbe. Vous savez que lors de la création du monde, l'homme a été créé Betselem Elohim. Betzelem Elohim veut dire à l'image de Dieu. Or, nous savons bien que Dieu n'a pas d'image, et que les sages en concluent, c'est qu'il ne s'agit pas de l'image de Dieu, mais d'une certaine qualité divine. Et quelle est cette qualité? La parole. Ça veut dire que l'homme a été doté de la parole, d'un élément que seul le Créateur possède au départ. Donc ce qui définit l'homme en tant que tel, c'est le Verbe, c'est la parole. En cela, nous sommes différents de toutes les créatures, car nous avons la possibilité de parler. Or, la parole n'est pas quelque chose qui sort de la bouche. La bouche n'est que l'expression, que l'ustensile de cette pensée, car la parole est une pensée. C'est une pensée qui parle. Comme dit Onkelus, Ruach memalela, c'est un souffle parlant. On ne parle pas par la bouche, on parle par le cerveau qui va cristalliser la pensée et qui va lui donner en réalité des lettres, des phrases, des mots. Et c'est comme cela que nous nous exprimons et que nous arrivons à nous faire passer des messages les uns aux autres. D'ailleurs, le monde des lettres est un monde supérieur. Je peux vous toucher seulement par mon verbe. Je n'ai pas besoin de vous toucher physiquement. La bouche touche beaucoup plus fort que le reste. Et c'est pour ça que les lettres en hébreu s'appellent otiyot. La racine est atta. Atta en araméen, se faire venir. Ça veut dire que le monde des lettres, c'est un monde qui me permet de faire venir certains éléments. Par exemple, je veux faire venir une certaine idée, c'est par des lettres que je vais traduire l'idée, et donc ça va être en réalité un véhicule. Les lettres sont un véhicule pour la pensée. Tiens, mettez-le dans un verre d'eau, c'est le mieux. J'ai essayé, ça marche. Tiens. Et donc, comment est-ce que vous dites le monde qui vient? Ce que vous dites en français généralement, Olam Abba, le monde futur. Une traduction qui n'existe malheureusement pas, mais que beaucoup de gens se trompent. Le monde futur n'est pas du judaïsme, ça ne veut rien dire, mais le monde qui vient. C'est-à-dire un monde qui fait venir à nous certaines valeurs. Et bien ça s'appelle Alma de Ate, le monde de l'être. Donc en réalité, les êtres sont des véhicules qui nous font venir des messages dans notre monde. Et chaque fois que je veux faire passer un message, eh bien ce message m'arrive par des lettres. Je pense l'être, je parle l'être, je rêve l'être, car tout ce que je rêve, tout ce que je vois, n'est qu'un ensemble de lettres. Et les combinaisons forment des objets, des êtres, et ainsi de suite. C'est-à-dire que notre monde, tout entier, est fait de lettres. Et d'ailleurs, l'expression qui se dit en hébreu « dibou » vient du « bar ». Bar qui veut dire extériorisé. Khatoul bar, un chat sauvage, un chat du dehors. Quel bar, tsemach bar. Eh bien, bar, c'est la même chose. Dibou, c'est une expression qui est dehors. Dalet bar, bar dalet, en dehors de la porte. Donc, lorsque je veux exprimer quelque chose et que je veux savoir la sagesse de quelqu'un, c'est par sa parole au départ que je peux voir sa sagesse. Car s'il s'était, ça peut être de deux choses l'une, ou il ne sait rien, ou bien il se fait parce qu'il est vraiment sage et qu'il attend le moment pour parler. Mais au moment où son verbe s'ouvre, c'est là où je peux en réalité mesurer la valeur de sa sagesse. Donc je conclue pour l'instant, la parole est une sagesse qui parle. Et donc une sagesse qui s'exprime par la bouche en apportant quelque chose de nouveau dans ce monde. C'est ainsi que Dieu a créé le monde. Le monde fut créé par la parole. Vayomer Elohim Yehi Or, Yehi Or. Dieu dit et la chose est. C'est-à-dire que le monde est créé par la parole et la Torah le mentionne pour bien nous faire comprendre que ce que l'homme a reçu comme cadeau ultime, c'est en réalité le verbe d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi? Mais tout simplement pour nous dire que de la même manière que Dieu a créé le monde par la parole, nous aussi, nous pouvons créer de nouvelles situations et changer certaines d'autres situations par notre parole. Donc la parole est créatrice. Vous connaissez tous cette fameuse expression de sorcellerie abracadabra, qui veut dire en réalité je crée par la parole. Abra, boré, kedabra, par la parole. Donc créer par la parole, ce n'est pas des films de Harry Potter, ce sont en réalité, c'est une réalité, et je peux créer par la parole. Et c'est pour cela que les sages sont arrivés à une conclusion, tzadik gozer v'atadosh baruchu mekayem. Lorsqu'un tzadik décrète certaines choses avec sa bouche, c'est pas qu'il a vu ou qu'il a prévu, c'est que sa bouche vient de créer la chose. Donc si par exemple vous allez voir un rab et qu'il vous dit la semaine prochaine vous allez vous lever, c'est pas parce qu'en réalité il a vu que vous allez vous lever, il vient de prononcer une nouvelle réalité dans le monde, par son verbe. D'où l'importance de faire attention à sa parole. Et de ne jamais gaspiller les mots que nous avons, parce que ces mots, M-O-T-S, guérissent beaucoup de mots, M-A-I-X. C'est par les mots qu'on peut guérir en réalité. Et donc lorsque Dieu dit, eh bien la chose est, Vayom Elohim Yehior, Dieu dit que la lumière soit, Vayehior et la lumière est. Donc, il y a ici, et les sages dans le traité de Martin de Fer nous disent qu'il y a 10 paroles par lesquelles le monde se crée. C'est-à-dire quand vous comptez dans Bereshit, il y a 10 fois Vayomer, Vayomer, Vayomer. Bereshit lui-même est compté comme l'un d'entre eux. Ça veut dire qu'il y a ici des nuances. Et là, je rentre un tout petit peu dans ces nuances. Il y a Vayomer. Or, Vayomer, c'est pas Vayedaber. En français, c'est la même chose. Dieu a dit. Mais non. Vayomer, c'est Amira. Vaidaber, c'est Dibour. Quelle est la différence entre Amira et Dibour? Alors, ça, je vous explique que Amira, c'est à soi-même. Vayomer, et ça, Belibo. Et ça se dit à lui-même. Il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Donc, lorsque Dieu crée le monde, ça s'appelle Amar. Vayomer Elohim. Car Dieu est seul. Il n'a pas d'interlocuteur lorsqu'il crée le monde. Il est lui et lui. C'est tout. Donc toute la création se fait par une amira. Alors que le dibour, j'ai ainsi parlé. Et donc, lorsque je parle à quelqu'un, on dit Ani medaber itra. Ani omer le asmi. Amarti. Je parle tout seul. Mais Ani medaber, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une identité en face de moi qui entend ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est comme ça que le monde fut créé. Donc, l'homme, comme je viens de le dire, a reçu le même cadeau, ce cadeau-là, la parole, le verbe, et nous faisons beaucoup de choses avec ce verbe-là, avec cette parole, avec cette capacité d'extérioriser une idée profonde. Paro n'est pas le roi d'Égypte, seulement au premier degré. Il faut un petit peu monter du niveau. Vous imaginez qu'il y avait un pays qui s'appelait Égypte, qu'il y avait un roi qui s'appelait le Pharaon. C'est sympathique, il s'appelait Tabès. C'est quasi même. Il faut monter maintenant, ça suffit, on est à la fin du temps. Pharaon, en réalité, c'est l'antithèse de ce qu'on vient de dire. Si vous inversez les lettres du mot Pharaon, vous avez Pera, la bouche du mal. C'est-à-dire, il n'a pas une bonne bouche. Donc, moralité, on peut être Pharaon 10, 20, 30 fois par jour. Chaque fois que vous parlez mal, vous êtes un petit paro. Et chaque fois que vous corrigez ce mal, eh bien, vous prenez les mêmes mots que paro et vous transformez en réalité la force de péria. Péria, c'est ce qu'on fait quand le bébé subit la brique mila, on dévoile en fait sa parole. Dans le mot paro, il y a afra'a. C'est-à-dire paro est un perturbateur. Donc à chaque fois que vous avez un élément perturbateur dans votre corps, dans votre esprit, ça vous empêche de parler, donc vous êtes mal. Car la maladie, porte bien son nom, c'est une incapacité de dire, maladie. Donc la maladie est un problème de verbe, est un problème de diction. D'ailleurs on dit une mauvaise diction, malédiction. C'est une maldiction. Alors qu'une bonne diction, c'est une bénédiction. Vous voyez qu'en réalité, tout est dans notre bouche. Et le peuple d'Israël a été doté plus encore parce que nous parlons le langage du saint d'initiative. D'où l'importance d'étudier la Torah en hébreu. Parce que ceux qui ne l'étudient pas en hébreu ne voient pas les choses à leur source. Ils ne voient que des résultats. Alors que la Torah en hébreu, c'est une Torah qui en réalité à la hauteur de ce que le divin a voulu nous faire passer. Donc, comment est-ce que s'appelle le langage hébraïque? La Shom HaKodesh. Tradition, pas la langue sainte, la langue du saint, pas sacrée, la langue du saint qui lui appartient. De la même manière que Yerushalayim et Ir HaKodesh, pas la ville sainte, c'est de la chrétienté. Attention, ne dites jamais que la terre d'Israël est une terre sainte. C'est la ville du saint d'initiative, la terre du saint d'initiative, ça change tout. Et c'est pour ça que c'est très important d'étudier l'Ultas. Car si c'était Holy Land, la terre sainte, eh bien on aurait dit Eretz HaKdosha. On ne dit pas Eretz HaKdosha, on dit Eretz Shel HaKodesh, Eretz HaKodesh. C'est sa terre à lui, elle lui appartient. De la même manière que le Shabbat que nous venons de traverser, vous l'avez sûrement appelé le grand Shabbat, Shabbat HaGadol. Faute. C'est une faute. C'est le Shabbat Shel HaGadol, c'est le Shabbat du grand, de celui qui a appelé le grand. C'est différent complètement. Et ça, c'est pour ceux qui parlent les beaux. D'où l'importance de comprendre. Je suis en train de m'étouffer, si j'ai besoin d'air, j'ai très chaud. Je suis désolé. Donc, il y a en réalité une difficulté chez Paro, et chez tous ceux qui empruntent le mode de vie pharaonique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention, nous pouvons être Paro tout le temps. Et si vous êtes Paro, si vous vivez mode Paro, bien vous ne pouvez pas vous sortir de vie, car celui qui vit au degré pharaonique ne peut pas se libérer. Et par haut, l'exprime lui-même, l'œil d'Adati est à faire. Je ne sais pas, je ne peux pas me connecter au nom. Je ne peux pas me connecter à cet être infini. C'est-à-dire, je suis en réalité dans la déconnexion totale, dans la séparation totale. Et c'est ça, Mitzrayim. Quelles sont les lettres de Mitzrayim? Mitzar, la prison de Mi. Qu'est-ce que c'est que Mi en hébreu? L'identité. Qui est qui? Donc Mitzrayim, ce n'est pas encore une fois seulement un pays dans lequel nous étions esclaves, c'est bien pour les petits-enfants, il faut dépasser ce niveau. Mitzrayim, c'est l'exil de l'identité humaine. Tu ne sais plus qui tu es. Tu as perdu ton sens, tu as perdu ton identité, tu as perdu ton symbole humain. Or, j'ai dit tout à l'heure que l'homme était défini par la parole, donc être en exil, c'est ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Donc si vous avez des difficultés à parler et à vous exprimer, à traduire une pensée ou autre chose, il faut guérir de ça. Et le soir de la guérison, de la thérapie, se fait ça. Donc paix, ça, la bouche, ça en valeur numérique, c'est 68. C'est la même valeur numérique que la vie. Donc paix, ça, c'est la bouche de la vie. C'est la guérison. Et c'est pour ça qu'à paix, ça, il faut répondre. Il faut beaucoup parler parce que c'est avec cela que l'on guérit. Comment s'appelle la massa? L'Echem Aroni. Alors vous traduisez encore une fois le pain des pauvres, d'accord? Le pain de misère. En fait, c'est marqué dans les Agados. Ça, c'est la Agada de Dalton. L'Echem Tagada Tagada. L'Echem Oni, c'est l'Echem Seonim Alav, de Varim Harbe. C'est le pain de la réponse. Écoutez bien, c'est complètement différent. La massa, c'est pas le pain des pauvres, le pain de misère. C'est tout de suite chrétien. La massa, c'est le pain qui nous permet d'ouvrir la bouche et de répondre aux questions que l'on nous pose. Et ça, c'est le lechem oni. Je réponds. Moralité, nous devons réapprendre. Et c'est pour ça que nous sommes revenus pour guérir de 2000 ans d'exil. est l'essentiel de l'exil, et c'est pour ça que j'ai pris ce cours et ce thème précisément, c'est parce que pour le Zohar Akadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a qu'un seul exil, l'exil de la parole. Lorsque tu es libéré de cet exil-là, tu te libères de tous les autres exils. Donc la première chose dans une thérapie quelconque, c'est d'exprimer avec la bouche ce que tu ressens. Si tu ne sais pas, si tu deviens en réalité fermé de la bouche, si tu deviens muet, comment on dit en hébreu muet, ilem, eh bien tu deviens alim, c'est-à-dire
violent.
Donc la violence est conséquence de l'utisme. Si tu es muet, tu deviens violent car quelqu'un d'autre doit parler. Donc tu ne sais plus parler avec ta bouche, tu parles avec les mains. Donc alimut et imut, c'est la même chose. Et donc les sages nous préconisent d'ouvrir la bouche, car celui qui sait ouvrir la bouche, et si quelqu'un dans votre entourage ne sait pas l'ouvrir, il faut lui ouvrir ce soir-là. Ah, ça fait. Toi tu dois l'ouvrir, c'est une oeil, celui qui ne sait pas poser de questions. Donc il est en réalité hors-jeu là, il faut juste le guérir. Il montre qu'il est en réalité ici, mais il a un problème de diction. Donc tu dois l'aider à ouvrir sa bouche, donc tu dois toi lui poser, tu dois lui permettre d'ouvrir sa bouche. Et ça c'est le problème, lorsque Paro ne reconnaît pas en fait le verbe avec lequel le monde se fait, c'est ça que ça veut dire, il ne reconnaît pas que la parole a cette puissance-là, eh bien en réalité il est en train de se déconnecter. Donc, nous avons en réalité 10 paroles avec lesquelles le monde se crée. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Dieu a créé le monde, il était seul. Donc il est méconnu. Personne ne sait, personne n'était là pour voir, personne ne croit, personne n'a une évidence que Dieu a créé le monde. C'est comme si les 10 paroles créatrices sont rentrés dans une prison de l'oubli. On est d'accord? Car si Dieu dit quelque chose, mais moi je ne crois pas que par sa diction la chose fut, c'est comme si la parole elle-même créatrice est tombée dans une prison. Comment on appelle cette prison? L'Égypte. Donc l'Égypte en réalité l'a emprisonné, ni plus ni moins que les 10 paroles par lesquelles le monde s'y crée. Et donc, qui est en exil réellement? Dieu lui-même. Vous comprenez? Alors, il y a une phrase en hébreu que vous ignorez peut-être. L'Ishuatra qui dit qui Hashem. Ou l'Ishuatra qui dit nous Hashem. Traduction. Nous attendons ta rédemption à Kadosh Baruch Hu. Or, comme nous sommes égoïstes, nous pensons à nous. Nous attendons que tu nous sauves. Non! L'Ishuatra qui vit nous Hashem. On attend une seule chose, que toi, Dieu, tu sortes de ton exil. C'est énorme la différence. Car Dieu est en exil au moment où il ne se dévoile pas. Et pourquoi il ne se dévoile pas? Parce que son verbe créateur est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Personne ne sait c'est lui. Tout le monde vit comme si il s'était fait lui-même. D'ailleurs, Paro, comment est-ce se considère lui-même? Lui, Yehori, Jehami, Asitim. Je me suis fait tout seul. Vous avez déjà entendu des gens qui se sont dit, moi je suis parti de rien, je me suis fait? Phrase de Salomon, il y a un problème. Et donc en réalité, la force de divine qui n'est pas dévoilée dans ce monde, elle est emprisonnée. Et donc, la pensée divine qui a précédé le monde ne peut pas s'exprimer. Et donc Dieu est dans son ciel. Et nous attendons une seule chose, c'est que Dieu descende sur terre en ce divin, qu'il se dévoile dans notre monde. C'est ça la royauté divine. C'est ça que vous attendez lorsque vous attendez le Messie. Car le Messie, vous avez peut-être jamais fait attention, ça vient du mot conversation. C'est ça, Messie. Messie, c'est celui qui va exprimer la parole de Dieu sur terre, tout simplement. C'est-à-dire que le Messie est un homme qui est capable d'exprimer par la bouche des choses tellement fortes, mais concrètement, simplement. Vous voyez, il frappe la soie, Bassadé. Il sera qu'il est sorti pour parler. Donc Messiah ou Messiah, c'est le même lettre. D'ailleurs, c'est le même lettre que sa mère. C'est Tu peux devenir heureux parce que tu sais parler, parce que lorsque tu sais exprimer quelque chose, tu te soulages et tu sais donner une mesure à chaque chose dans ton monde. Moralité, tout l'exil égyptien est un exil qui se trouve dans la connexion entre la tête et l'expression et le corps. Donc l'Égypte, c'est en réalité le coup. D'ailleurs, le Hari HaKadosh, l'un des plus grands kabbalistes que le monde ait connu, dit que l'Égypte, c'est l'endroit étroit qui fait le lien entre la tête et le corps. Et que le roi de cette étroitesse est derrière, comment on appelle en hébreu cette partie ? Aoret. Paro, les mêmes mots. Aoret, c'est l'élève de Paro. Donc Paro est le roi de ce passage. Or, Paro avait avec lui Sar Hamaski, c'est-à-dire celui qui servait le vin, Sar Tabachi, celui qui faisait à manger, et Sar Ophi. Eh bien, nous avons en réalité l'œsophage, l'artère et le canon. Ça veut dire que nous avons les trois princes qui sont en réalité sous le pharaon. Regardez, c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans notre corps humain, nous avons Pharaon Horef, Sarah Mastin, Sarah Tabachim et Sarah aussi. Si tu ne sais pas exprimer quelque chose, bien tu bloques tout ça, et Pharaon et tout le reste te bloque, donc tu as les boules, tu es pris à la gorge, et quand tu es pris à la gorge, eh bien tu ne peux plus t'exprimer. Donc ton monde reste au niveau du circulaire de la tête, sans trouver de direction corporelle. Donc tu ne peux plus sortir des lits. Les gens qui ne sont pas sortis des lits sont morts dans réalité, dans un monde circulaire où il n'y a plus de sens. C'est ça le secret. Je vous le traduis avec des mots simples. Si vous voulez sortir des lits, ne restez pas avec des idées dans votre tête. Car dans la tête, les idées sont circulaires. Dès que ces idées se transforment en rectiligne, elles peuvent aboutir à quelque chose. Et si vous ne savez pas traduire des idées en gestes, des idées en actes, bien vous restez paralysé. Et cette paralysie s'appelle Mitzrayim. Cette paralysie s'appelle Mitzrayim. Donc Yetziat Mitzrayim, c'est permettre en fait à toutes les idées de la tête de circuler à travers cet endroit le soi. Tout ce que je viens de dire, ça s'appelle la prison des mots. La prison des mots. Mitzrayim, c'est la prison de la définition des choses. Shem. Quand je dis que ça s'appelle Kof, j'ai donné un nom. Bien, vous savez déjà de quoi je parle, même si vous aviez les yeux fermés. Ça veut dire que quand je définis quelque chose, je lui donne une direction. D'ailleurs, le mot Shem en hébreu, si vous changez de voyelle, ça fait Sham. Donc, j'ai donné une direction lorsque j'ai donné un nom. Dès que tu donnes un nom, tu donnes une direction. D'ailleurs, quand vous appelez un bébé, vous lui donnez une direction de vie. D'où l'importance de donner un nom normal. Et pas n'importe quoi, il faut faire attention aux prénoms auxquels nous donnons à nos enfants. C'est très important. Et ça, c'est tout le secret de définition. Car lorsque je définis quelque chose, ça me rassure, ça me calme. Si je ne sais pas définir, il y a des gens qui ne m'expriment pas, qui ne savent pas. Dès qu'ils commencent à parler, ils vous disent « Ouais, mais... Ouais, bon, mais je me comprends. » Il n'a rien dit, quoi. Je me comprends. On s'en fiche que tu te comprennes. D'ailleurs, je vais vous donner quelque chose qui ne va peut-être pas vous faire plaisir. Si vous n'êtes pas capable de retranscrire ou de redire un cours, c'est que vous n'avez pas encore assimilé. Oui. C'est-à-dire celui qui étudie le plus maintenant, c'est moi. Parce que je suis obligé maintenant de traduire toutes les idées que j'ai mises sur texte, dans ma pensée, je suis obligé de la verbaliser. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit chez moi. Alors que vous, là, vous êtes dans une réception pour l'instant. Alors je vais vous donner une clé quand même. Je vais vous donner une clé. Pour pouvoir arriver à faire ce que je viens de dire, à chaque fois que vous étudiez, étudiez pour transmettre. C'est-à-dire, ne venez pas pour écouter un cours. Venez pour écouter et transmettre ce cours. Quand vous allez dans une yeshiva, les élèves qui sont assis sont comme ça. Ils regardent le rat intensément dans les yeux. Ils n'arrivent pas à se concentrer, ils sont tout le temps dans un mouvement. Et c'est en réalité avec ça qu'ils sont dans le sens de la réception pour le don. Et c'est à cette seule condition que vous pouvez en réalité vivre. Car, un autre secret, seulement ce que vous avez donné dans votre vie, c'est ce qui vous appartient. Tout ce que vous avez gardé chez vous ne vous appartient pas. Le seul argent que j'ai eu dans ma vie, c'est celui à qui j'ai fait profiter d'autres. C'est tout. Tout le reste, c'est de l'ego. La première chose que nous faisons à Pessah, encore une fois, on ne comprend pas parce qu'on lit en araméen. Al-Ahma-Anya. Alors ça devient n'importe quoi en français. Voici le pain de misère. Imaginez-vous, la société totale, deux petites crèmes froides sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça, Rabia? Tu peux pas me parler en hébreu. Déjà qu'on a du mal avec une panne, tu me rentres de l'araméen maintenant, et combien de vies il faut que je vive pour apprendre tout ça? Alors je vais vous traduire. La première chose que vous faites à Pessah, c'est de lever la matin en vivant. Vous voyez cette matin? C'est-à-dire, je veux dire, l'Ahmania, c'est Khamer. Ha, l'Ahma Anya. Voici le pain de réponse. Et qu'est-ce que tu dis? Kol Bichim, tous ceux qui ont faim, qui viennent à table. Vous rappelez les lettres? Veïchol qui vient manger. C'est-à-dire, la première vertu que je développe le soir du Seder, c'est la générosité. Sinon, c'est pour mon ventre que je fais tout ce repas, pour ma famille. C'est du bidon, tout ça. Ça veut servir, ressortir des vies. C'est être dans le don, c'est être dans l'amour de l'autre, de lui donner, de lui partager quand je sens qu'il est mal. Ça, c'est ça. Et donc, si je n'ai pas la possibilité de définir les choses, si je ne sais pas le manque qui se trouve chez mon voisin, chez mon frère, chez ma soeur, si je n'ai pas la conscience des choses, si je n'ai pas la possibilité de reconnaître les choses dans ma vie, ça aussi, c'est une autre forme d'exil. Vous avez fait quelque chose de mal et vous êtes incapable de le reconnaître. Parce qu'il y a trop d'ego, trop d'égoïsme. Il faut dire, je me suis trompé, c'est pas grave. Nous avons des tâches. Ça fait partie de notre vie. Moi, je vais au zoo pour voir des tâches. C'est la girafe. Toute la girafe est pleine de tâches. Et c'est ça, sa beauté. Mais nous sommes pleins de tâches, nous aussi. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité à la concentration et à l'expression des choses. Il y a une incompréhension des choses dans ce monde, donc je ne sais pas les dire. Je ne sais pas donner un sens à ma vie, face de salon. Tout ça, c'est une vie, tout ça, c'est un exil. L'exil, c'est pas être emprisonné dans un pays seulement. C'est sûr que c'est ça. Mais c'est tout ce que je suis en train de dire. Donc c'est une difficulté à être l'être humain que je suis qui a été doté de la parole. Car c'est avec ça que je suis différent de tout le reste. Donc si je n'ai pas cette parole qui marche, l'essentiel de mon être humain n'est pas là. Adam Arishon, que vous le sachiez, dès les premières heures de sa création, il a donné des noms. On lui a fait passer, Dieu lui a fait passer des animaux, il les nommait. Vous savez quelle intelligence il faut pour nommer quelqu'un? Ça veut dire que quand il va s'est passé, ça ne s'appelait pas encore Para. C'est lui, Adam Arishon, qui a dit ça, ça s'appelle trois lettres. P, R, T. Incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, toute la génétique de la vache jusqu'à aujourd'hui au niveau scientifique est incrustée dans ces trois lettres. Ça veut dire dans le mot para, il y a tout ce que vous voulez. C'est incroyable, ça fait peur, ça fait peur. Et Adam Arishon avait cette intelligence de savoir donner la force. C'est pas par hasard, tout ce que nous disons, c'est pas par hasard, c'est pas un langage qui a été créé par un forum. Ça, on va appeler Sayad, et ça, on va appeler Kos, et ça, on va appeler Bakbouk. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une langue divine créative. C'est-à-dire que lorsque je dis quelque chose, il y a une existence nouvelle qui est là. Comment est-ce qu'on dit tout ça, cette façon d'exprimer? Hashem. Qu'est-ce que c'est dire Hashem? Le mot. Inverser les lettres. Moshe. Moshe, c'est l'antithèse de Tera Paro. Je résume. En vous, vous avez ou Tera, la bouche qui comprend rien et qui porte que des choses négatives, ou bien Hashem, Moshe, celui qui sait dire. Choisissez l'un des deux et vous êtes ou en Égypte, ou bien vous sortez d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il faut trouver Moshe. Retrouvez votre Moshe. Vous avez un Moshe à l'intérieur. Bien fait. Donc vous avez à l'intérieur toutes les possibilités, tous les ustensiles pour vous sortir d'Égypte cette année. Ne racontez pas l'histoire seulement de la sortie d'Égypte il y a 3300 ans. Chaya Vadam Nirot est absolument que nous roulons la salle. Si vous racontez une histoire aux enfants de ce qui s'est passé à 3000, ça suffit, quoi. D'ailleurs, on en a marre. Et combien de pêches qu'on a fait dans notre vie? Toujours les mecs, Barhamachol, machin, avec des coutumes de bidon. Arrêtez avec ça, arrêtez. Si vous voulez vraiment sortir d'Égypte, c'est un rituel, c'est pas de la rigolade. On est tombé dans un système religieux débile. C'est terrible, je souffre de ça, moi. Je souffre de ce rituel, elle est morte. Alors c'est bien les coutumes, mais ça ne suffit pas, il faut comprendre ce qu'on fait. Vous savez que la coutume en hébreu, minhag, ce sont les mêmes lettres que Gehenom. Gehenom. Ça veut dire que tu peux par une coutume sans rien comprendre tomber en enfer. C'est dans l'enfer de tes habitudes, de tes rien fait, tu ne te renouvelles pas, tu ne comprends rien au texte. Tu es dans la prison du texte, tu n'es même pas sorti toi-même de ton texte. C'est terrible. En hébreu, lire, micro, c'est aussi appelé. C'est extraordinaire. Quand je lis, je fais sortir le texte, je le fais vivre en moi. Ça, c'est la lecture. Donc Moshe, en réalité, c'est l'antithèse de Pharao. C'est avec lui que nous avons une connexion. C'est lui le Da'a. Il se trouve au même endroit que Pharao. Et il combat Pharao pour faire passer de la tête au corps, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure. Et donc, Moshe, qui est en Égypte, il est malade pour l'instant. Alors que dit-il? La seule chose qu'il dit, c'est « Ve'ani arel satani ». Lo is dvarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Et pourtant, Moshe, tu t'appelles Moshe. Yoel vient de le dire dans le cours. Alors pourquoi tu ne sais pas t'exprimer? Mais parce que mon peuple est malade. Moi, le chef de ce peuple, je ne peux pas m'exprimer parce que eux sont malades. Moi, je ne suis que la représentation de mon peuple. Donc si Moshe, qui est le matriarche de cette époque, dont la parole est l'essentiel, si lui ne peut pas parler, ça veut dire que le peuple est malade. Dans son expression, donc Moshe bégaye. C'est pour ça que Moshe bégaye. Raconter à un enfant que Moshe bégaye, c'est vraiment, il faut vraiment arrêter, quoi, avec ça. Il faut arrêter de raconter des bêtises à nos enfants. Il faut lui expliquer pourquoi Moshe n'était pas encore doté de la parole. Parce que la parole était en exil. C'est ça que ça veut dire. J'ai amené un même patin. Vous savez ce que c'est la orla? Le trépied, c'est de Moshe avec le trépied dans les lèvres, ça veut dire qu'un homme. C'est incirconcis des lèvres, ça veut dire quoi? Il n'est pas capable d'ouvrir. Sainissement, c'est terrible. C'est la plus grande des maladies. D'ailleurs, quand il sort, il dit, ah, bien sûr, Moshe, vous venez de faire. Ça y est, c'est la libération, on peut même chanter. C'est extraordinaire ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que tant que nous sommes en exil, Dieu lui-même ne peut pas se révéler dans ce monde. Pourquoi? Parce que le peuple qu'il a créé spécifiquement pour être le Verbe, car qui nous sommes-nous, le peuple d'Israël? Nous sommes le porte-parole de Dieu sur terre. Le prophète Isaïe, au chapitre 43, nous dit que je vous ai créé, vous Israël, pour une seule chose, pour raconter qui je suis. En hébreu, Amzou, Yassar, Kimit, et il l'a fille et sa père. C'est-à-dire, le peuple d'Israël n'a été créé que pour une seule chose, pour raconter Dieu au monde. Donc, si le peuple d'Israël est muet, eh bien, Dieu ne se dévoile pas. Donc, pour que Dieu se dévoile, il faut d'abord une vérité. Israël dévoile. Donc, de l'exil de la parole. Donc, tout est lié. Extraordinaire. Donc, au moment où je sors d'Égypte, où le peuple sort d'Égypte, qui est libéré? La parole. La parole de qui? La parole de Dieu, celle qui est tombée dans les oubliettes depuis la création du monde. Et ça, c'est en réalité, on a libéré la parole d'Égypte à travers la libération de ce peuple porteur de la parole. Quelle est la valeur d'ailleurs numérique d'Israël? 541. C'est la valeur d'Israël. Ça fait 5 plus 4 plus 5, ça fait combien? 10. C'est-à-dire les 10 paroles de la création, c'est nous qui les portons. Israël, c'est le porte-parole, nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. En français, Le chauffard, c'est le plus mauvais conducteur. En hébreu, c'est le meilleur conducteur qui soit. Ça veut dire que la rédemption d'Israël, en réalité, n'est rien d'autre que la rédemption de Dieu lui-même. Et donc c'est le peuple d'Israël, par sa sortie d'Égypte, qui a ouvert la porte à Dieu pour descendre sur terre. Moralité, la bouche d'Akadosh Baruch Hu qui est tombée dans les oubliettes, les 10 paroles créatrices qui sont tombées en Égypte, qui sont tombées dans l'oubli, doivent être maintenant libérées. Par comment est-ce que je libère les 10 paroles de Dieu? Par du tout. Dame, Fardéa, Kini, là aussi tu peux tomber dans n'importe quoi. Mais pensez, ce rituel, tu prends un petit peu de vin, un petit peu d'eau, et tu mets là, voilà. Mais comprends qu'à chaque fois que tu dis le nom d'une plaie, tu as libéré une des paroles. Quand tu dis Makat Bechorot, c'est fini. Là, les 10 paroles de la création ont été libérées. Extraordinaire. Donc les 10 paroles que Dieu a utilisées pour créer le monde sont tombées en Égypte. Il fallait les libérer par 10 plaies. Et ces mêmes 10 paroles vont se retrouver 50 jours plus tard dans les 10 commandements.
C'est pas un
divorce, mais un divorce. Et là, ça devient Aseret HaDibros parce qu'il y a un interlocuteur. C'est magnifique.
Tout est clair, tout est limpide dans la Torah. Tout est simple parce que tout est saint. C'est ça une vraie Torah. Une vraie Torah, c'est quelque chose où tu dois sortir d'un cours en te disant, mais attends, tout est clair. Elohim Asa et Adam Yassar, Vehem Abitsu Chesbonot. Dieu nous a créé droit. Et nous avons commencé à faire des comptes. C'est terrible, les comptes nous tuent. À chaque fois que vous tombez dans une angoisse, c'est parce que vous commencez à faire des comptes. C'est terrible. Vous savez quel est le roi que le peuple d'Israël a convaincu? Le premier roi qu'ils ont vu lorsqu'ils sont rentrés pour la première fois en Israël. Comment il s'appelait? Melech Chesbon. Ça vous dit que c'est? Ça veut dire que le premier ennemi que vous avez quand vous faites votre alias, c'est le roi de compte. Et oui, il y a des gens qui tombent sur ce roi qui ne monte pas parce que leur compte leur en dit « Mais on ne peut pas monter, c'est pas possible, c'est trop dur. » Donc le roi de compte les a tués. Vous savez, comme la Torah parle en allusion, mais si vous ne comprenez pas le texte de la Torah, c'est comme si Dieu racontait une histoire à un enfant de 10. Moi, à chaque fois que je garde un petit garçon, une petite fille, je lui raconte une histoire avant de dormir. Il comprend très bien que l'histoire, elle parle de lui. Il est intelligent. Quand je lui dis, tu sais, un jour, il y avait un petit garçon, il n'était pas très gentil avec sa maman. Il comprend tout de suite, c'est lui. Et nous, à ta deux fois qu'on nous raconte une histoire, on dit, non, c'est eux, c'est l'histoire, c'est pas moi. Ah, t'as rien compris à l'histoire. Tu vois pas que Dieu, il parle de toi. Mais prenez ça pour vous. Donc la Torah, elle est où? Elle est en vous. La sortie de vie, elle est là, elle est dedans. Vous avez une expérience extraordinaire pour vous libérer cette semaine de tout. Mais si vous laissez ça au passé, c'est fini le passé. Qu'est-ce que je fais avec? Je raconte une histoire, je suis tombé dans la religion. Moi, je suis anti-religieux, dans ce sens-là. Parce que la religion, en réalité, c'est pas le judaïsme. Elle n'est pas une religion. On est un peuple qui a reçu la parole divine pour véhiculer des valeurs différentes dans ce monde. La religion, c'est la chrétienté, l'islam. Un jour, on m'a téléphoné de Eden 4. En me disant, est-ce que tu veux faire une émission hebdomadaire avec les trois religions? Je dis, lesquelles trois? Il me dit, la chrétienté, le judaïsme et l'islam. Je dis, ah non, je ne peux pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que moi, je ne suis pas une religion. Pour l'instant, il m'a dit deux religions et Israël. Le mec ne comprenait pas. Pendant un quart d'heure, il fallait lui expliquer le téléphone. Il m'a dit, bon, ça va, sur la couleur, on annule l'émission complètement. Okay. Vous comprenez que c'est essentiel de comprendre ça, il faut arrêter. Et donc, la sortie d'Égypte, en fait, elle a révélé au monde l'adresse. Dieu, maintenant, a une adresse pour envoyer ses emails. D'ailleurs, une elle en hébreu, ça veut dire avec Dieu. Une elle. C'est tout, c'est le peuple d'Israël. Donc Israël, c'est en réalité l'adresse essentielle de Dieu. Chaque fois que Dieu veut révéler quelque chose au monde, il utilise à nous.
Quand Dieu descend, par exemple, dans la prophétie, un jour je mettrai mes pieds sur le mont des Oliviers. Vous croyez que Dieu a des pieds qu'il va mettre sur le mont des Oliviers? Ça veut dire que quand est-ce que je mettrai, moi, Dieu, les pieds sur le mont des Oliviers? Quand les soldats d'Israël, en 1967, vont mettre leurs pieds sur les monts des Oliviers. C'est Dieu lui-même qui s'est posé là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et quand Dieu revient à Sion, c'est parce que vous avez fait votre alia. C'est son retour à lui, à Sion. Vous avez ramené en plus de vos enfants et de vos balises Dieu avec vous. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades. Regardez ce que je suis en train de lire dans le livre de Dvarim. Dieu reviendra avec toi, avec ton retour. Et Rafi là-bas, il dit, attends, il y a un problème. Hayal Olistov, il aurait dû dire, vérifie, Dieu te ramènera. Quand vous lisez en français, dites la vérité, dans le livre français, c'est marqué, Dieu te ramènera sur ta terre. C'est pas que vérifie, parce que vous lisez en français, vous trahissez le texte. Alors qu'il y a marqué, Rapoten ou l'amdumkal, nos sages ont étudié. C'est un kadosh Baruch Hu v'Ashrina Shruya en Israël v'Tsarat Galutam, que l'Ashrina, la présence divine, se trouve en exil. C'est que Fanny Ali, mais quand il revient, il dit Geoula le Asmo, Dieu se libère lui-même par ta libération à toi. Où est-ce que vous avez trouvé un truc pareil? C'est extraordinaire. Quand vous êtes revenu de France, vous avez sorti une parcelle divine de l'exil. C'est ça que vous avez fait. Vous n'avez pas fait votre alia. C'est où la souffle imaïm, Dieu est revenu avec vous. Et pourquoi c'est grand? Parce que Gadol, Yom, Kibbutz, Galuyot ou Bekoshi. C'est dur de revenir. C'est dur de rassembler les juifs pour qu'ils reviennent. Bekoshi, ça va être difficile. C'est où? Regardez, c'est vrai, non? Ou Asmo, Tarich, Yot, Ochez, Beyadat. C'est comme si Dieu prend la main de chacun de nous quand même à soi. Tous, tous, nous les comment, chacun. Et il le ramène en Israël. C'est ça que Dieu a fait. Vous avez senti la main de Dieu vous tenir la main? C'est ça. Et c'est de ça que vous devez parler ce soir de Pessah. Dieu m'a tenu la main pour me sortir. Dites ça à vos enfants. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. On est en train de vivre une époque que tous nos arrière-grands-parents rêvaient. C'est sûr que c'est difficile. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que la Géoula, c'est ça des difficultés. Pourquoi est-ce que vous mangez à un moment donné un petit sandwich à Pessah? Il y a deux masseurs, c'est du maror au milieu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le maror? L'amertume. Qu'est-ce que c'est la massa? La libération. Les Fahamim nous disent la libération se mange avec l'amertume. Il va y avoir des attentats et ce sera pourtant la venue du Messie. C'est extraordinaire. Et les gens qui ne comprennent pas, ils se disent ça c'est de la Géoula, il y a des attentats, il y a n'importe quoi, cet État il fait n'importe quoi, ces dirigeants ils font n'importe quoi. Ça, Rabotai, cet État il est jeune, c'est une petite fille, elle n'est pas encore femme, mais alors tu dois la jeter à la poubelle, tu dois l'aider à grandir, non? Quand vous avez des enfants, ils sont un petit peu malades, vous les amenez chez le médecin, je sais. Quand ils ont mal aux dents, vous allez les amener à les traiter. Non, l'État d'Israël. Si c'est pas comme je veux, je quitte. Je quitte. Je t'accompagne à l'aéroport, tu n'es pas fait pour rester là. Il faut arrêter de râler. Il faut arrêter d'ouvrir la bouche pour le mal. Vous êtes là pour apporter à cette petite fille qui est en train de grandir. L'unité divine se dévoile donc par Israël. Je termine, j'arrive à la fin. Et c'est en réalité ça, la véritable sortie de vie. Apprenez à parler. Apprenez à être des hommes qui savent parler. Vous savez quel est le premier lépreux de l'histoire que la Torah raconte? Mon cher Abbé. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du mal des enfants d'Israël. Et il avait de quoi, hein? Ils étaient à 49 degrés d'impureté. C'est comme si vous alliez aujourd'hui à un chat, et le rabbin dans le cours vous dit, mais aujourd'hui tout est minable. C'est pas possible qu'elle ait oula dans cet état. Parce que 1, 2, 3, et qu'il a ne fait pas Shabbat, et l'autre ne mange pas Kasher, et qu'il a eu la lutte. Il ne faut pas aller dans des cours comme ça, c'est absurde, vous savez. Moshe Rabbeinu a parlé du mal du peuple d'Israël. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, ils ne m'écouteront pas. Je lui dis comme ça, tu parles de mes enfants. Tu vas être lépreux maintenant. La lèpre,
ses motsira parce que tu as sorti la bouche du mal. C'est devenu comme par eau. Tu veux guérir, fais attention à comment tu parles. Fais attention à ta bouche quand tu parles de mon peuple. Si tu n'aimes pas mon peuple, ferme-la. Et Isaïe, la même chose. Dieu a renvoyé un ange qui lui a brûlé les lèvres parce qu'il a commencé à parler du mal. Cette terre d'Israël, c'est en réalité l'essentiel de la bouche. La bouche dans la Kabbalah s'appelle Malchut Peh. Torah c'est Baal Peh. C'est-à-dire que toute la bouche, la royauté du Dieu, c'est par la bouche. Si vous savez utiliser votre bouche, vous avez utilisé toute votre ouverture. La valeur numérique de Peh, c'est 85, c'est comme Mila. C'est incroyable. Mila, c'est un mot. Mais en même temps, c'est 85 parce que tu dis. Donc quand tu fais la brique en bas, tu ouvres la bouche d'en haut. Ça va ensemble. D'ailleurs, vous pouvez savoir comment un homme se conduit en bas par rapport à sa manière de parler en haut. Car nous avons deux bouches, nous dit le Zohar à Kadosh. Vous savez, si on dévoile tout le secret du Zohar, on n'a même pas besoin de parler à une personne. Tout est marqué sur son front, tout est marqué sur sa forme du visage et du corps. Tout est marqué. Seulement, on n'enseigne pas à ça parce que les gens sont vraiment à se regarder les uns les autres. Ils ne pensent rien comprendre. Mais tout est marqué. Toute la faute, c'est l'écran de l'ordinateur. Tout est écrit. Je peux vous raconter votre journée. C'est clair, c'est limpide. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas mentir. Il y a des degrés qui sont là, ça se reflète sur l'écran de notre vie. Ça, c'est un ciel. Des étoiles, tous les grains de beauté que vous avez sont des étoiles sur un ciel. Comme vous savez lire sur les étoiles, mais vous pouvez savoir lire sur un ciel de l'être, c'est sa peau. Donc quand le ciel de l'être est malade, ça s'appelle la lèpre. Parce que l'expression est mauvaise. Et ça, c'est tout le secret. Et là, cette sortie de vie, il faut bien comprendre qu'il s'agit donc essentiellement de la parole. Réapprenez à parler. Réapprenez à être juste dans vos mots, dans vos termes. Il y a une seule chose que j'ai appris de mon maître, okay, c'est la, comment on dit, la précision dans la parole. C'est ça que mon maître m'a apporté dans ce monde de plus. C'est de savoir être précis dans ce que tu dis. Pas arrêter de ramener plein de choses pour faire plus beau. Non. Dis les choses clairement. Que ce soit simple, que ce soit compréhensible, que tout le monde sorte avec une compréhension totale des choses. Autant que possible, parce qu'il s'agit de valeurs très très élevées. Bien, tout ça, c'est la Haggadah. Qu'est-ce que c'est Haggadah? C'est raconter les Hadiths, mais en même temps, c'est acheminer. C'est pas Dibour ni Amira. Donc, les Lomar, les Hadiths, c'est nouveau. Donc, qu'est-ce que c'est les Hadiths? Dibim en hébreu, ce sont des veines et des tendons. Donc, c'est quand tu achemines quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire en réalité? Tu dois transmettre en faisant passer cette énergie, le bincha, à ton fils qui est en réalité donné ton constructeur. Donc, la Haggadah, Pesar, Kol Hamardel et Saper, Bithiat Mitzrayim Harezem et Shubar. Donc, toute cette soirée, c'est la rédemption de la parole. Utiliser cette parole à bon escient. Et bien, Ezra Hashem, on nous ouvrira la bouche pour pouvoir être les porte-paroles de sa lumière éternelle qui est en train de descendre sur terre. Amen. 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 Amen.
Alors, on a du pain sur la bouche. Ça devrait être un plaisir. Quelques questions. La première question est juste une remarque. Vous êtes le mieux placé, certainement parmi vous, et en tout cas le mieux placé parmi beaucoup, par l'expression que vous transmettez, non pas par la parole, mais parce que vous mettez sur des toiles, et c'est en quelque sorte un aveu. C'est-à-dire qu'on voit des choses, mais si on ne les exprime pas en les voyant, on n'a pas compris. On a, comme disent certains qui fréquentent les salles d'exposition, c'est très beau, c'est très profond. C'est rien du tout, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas compris. C'était la première remarque. une autre remarque qui m'a été attirée par votre description, Pharaon, Moshe et les trois rois. C'est un peu la quadrature du cercle.
Tout à fait.
Nous avons la solution pour résoudre la quadrature du cercle.
Tout à fait. Nous sommes en réalité la ligne droite, la seule ligne droite dans tout ce monde circulaire. Car ce monde est un grand cercle. C'est pour ça que toutes les planètes sont circulaires. Le monde, l'univers est circulaire. Il n'y a pas de ligne droite dans l'univers. Même si vous traversez une ligne droite, elle devient courbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droite. Or, Israël, c'est Yassar, elle. Nous sommes la seule droite dans ce monde. C'est énorme. Ça veut dire que si vous prenez en fait le monde, c'est un disque plat. Israël fait de ce disque une spirale. Parce qu'il y a un sens. Et ça, c'est le secret de ce peuple. C'est que nous sommes la ligne droite à l'intérieur du cercle, et pour ceux qui savent un petit peu en mathématiques, c'est la clé de toutes les mathématiques. C'est tout simplement trouver en fait la direction dans le monde circulaire. Et ça, c'est la force d'Israël. Et en ce qui concerne l'étoile, j'appelle l'œuvre d'art, moi, une écriture. C'est une écriture. Et d'ailleurs, j'ai mis des années à trouver mon écriture. Parce qu'au départ, on essaye de ressembler, on ne sait pas trop, on se cherche.
Mais pas la parole.
Exactement. Et il faut... Tout à fait. Tout à fait. Il y a, je parlais de la parole, je n'ai pas parlé des blancs.
Okay.
Il y a des blancs qui parlent beaucoup plus. C'est-à-dire les silences ont autant à dire que la diction elle-même. Et c'est pour ça que ceux qui savent se taire à des moments donnés, c'est ceux qui permettent à l'autre de pénétrer et de réfléchir et de parler et de comprendre. Donc effectivement, il y a quelque chose d'énorme, j'appelle ça Igoulou de Yosh, c'est d'ailleurs un terme kabbalistique, la droite et le cercle. C'est énorme, c'est Yosef et tous les cercles étaient autour de lui dans son rêve. C'est pour ça que Yosef rêve qu'il est au centre et que tous les frères sont autour, c'est exactement ça.
Ça m'a fait penser, je ne suis pas très sûr d'avoir bien appris en allant plus vite dans ma pensée. On est comme on est, vous avez la capacité de lire, comme dans un livre, on va dire, hein, à travers la surface de notre corps, de nos yeux, etc. C'est un peu rigoureux ce que je veux dire. Si on attendait, vous allez voir la différence ?
Bien sûr. Baruch HaShem, il a marqué que l'homme, si vous reconnaissez un homme quand il est âgé, je n'ai pas dit Dieu. Et que vous dites celui-là, il est de tel signe astrologique, et que son caractère est comme ça, comme ça, comme ça, c'est que c'est un homme qui n'a pas évolué. Depuis sa naissance, il est resté bloqué. Alors que l'homme, le temps dans lequel nous sommes, nous sommes dans un espace-temps. On est d'accord? Le temps en hébreu se dit shana. Shana ne veut pas dire une année, ça veut dire nuit. Quand tu dis à quelqu'un Shana Tova, c'est un bon changement, pas bonne année. Donc, en réalité, nous sommes là que pour une seule chose, pour pouvoir évoluer. Nous sommes dans une perfectibilité constante. Et c'est pour ça que le Zohar commence par Keshoshana ben Hachochim, ben Ra'ayati ben Habanot. Comme une rose parmi les ronces, ainsi il m'a bien aimé parmi les femmes. Et que Keshoshana, c'est pas seulement poétique et magnifique. Que Shoshana que Achat, c'est notre fidèle et l'Ishtanot. Car toi, l'Assemblée d'Israël, tu es tout le temps dans un changement, dans une évolution vers l'infini. Car on tend vers l'infini, on ne pourra jamais être lui.
On termine, est-ce qu'on peut dire donc que chaque fois qu'on engrange une information, on n'est plus le même?
Exactement. D'ailleurs, vous n'êtes plus le même à partir du moment où vous l'avez transmis. Une lama de ta Aleph, la met de ta. C'est-à-dire, si tu viens comprendre le Aleph, enseigne-le. Et là, tu l'intègres.
On n'est pas dans la culture du magasinage.
Exactement. On n'est pas dans l'emmagasinement des choses.
Voilà, on est
dans la transmission.
Voilà.
Exactement. Moshe qui belle Torah Mishinaï ou Mestara Léo Shua. Tout de suite.
C'est une histoire pour ça. Okay. Parce que la Torah, on l'a vu, le précédent, juste avant Pétard, nous parlait de la
Shonara.
Okay. De la Shonara. Okay. Et donc là, guérison, c'est Pétard.
Voilà.
Ça, c'est le contact. La deuxième chose, c'est quand vous parlez de Moshe Daber, Moshe Daber. Quand Daber s'adresse au peuple,
tout à fait. Vaidaber, Vaidaber Hachem El Moshe, les morts. Alors, les morts, ça veut dire à soi-même. Mais après, il dit, Daber El Bnei Israël, mais Amarta. Ça veut dire que tout à fait. Je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que c'est énorme. C'est énorme. Exactement. Exactement. Il faut d'abord intégrer pour pouvoir transmettre. Tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, Dieu ne parle pas dans un langage humain comme nous. La parole de Dieu, c'est un son intérieur que nous entendons. C'est un chauffard. Exactement. Et d'ailleurs, les gens pensent que les morts, c'était le nom de la vie de Moshe.
Mais nous-mêmes, nous entendons, nous apprenons quelque chose pour le transmettre. Mais ce que nous transmettons n'est pas exactement ce que nous avons entendu.
C'est passé par le prisme.
Par le prisme de la personne.
On comprend le programme du
gars,
C'est-à-dire que
le fracas
par laquelle
il
passe, c'est pour la
transition
pour aller beaucoup plus loin, être entendu et être beaucoup plus
libéré. C'est vrai. Dans la Kabbalah, cependant, nous disons que Dieu sonne inversement.
Ah.
Il sonne par le côté large et ça nous arrive par le côté étroit, parce que lui est dans l'infini.
Absolument
dans l'infini. Donc en réalité, c'est l'infini qui nous arrive à la contraction.
Nous le croyons que nous sonnons.
Alors, en réalité, par la raison, vous dites ce soir, vous devez entendre la vraie sonnerie. Ouais. Pas la sonnerie Mike Bébé.
Encore une deuxième intervention. Je ne veux pas trop retarder le temps, parce qu'il a de la route à faire.
Moi, je voulais seulement
rappeler, je voulais dire, il y a plusieurs, ça dépend où vous étiez. Ah, moi j'en étais de partout. Hein. J'ai fait des séminaires dans tout Israël et en France aussi. Il y a Mamela. Deux. Très juste, c'était ailleurs. D'ailleurs, j'ai dit là-bas que vous êtes dans le passé, vous étiez ailleurs. Et là-bas, on est demain. Si vous étiez, vous devez vous rappeler. Baruch Hashem.
Oui, vous voulez poser une question ?
Non ? Baruch Hashem, Baruch Hashem.
Merci.
Je vois que ça a fait son effet.
Merci.
Baruch Hashem.
Une chose, comment tracer vos discussions, c'est le moment que vous avez écrit. Okay. Comment faire pour les...
Alors, je vais vous dire quelque chose. J'écris en hébreu.
En hébreu.
Donc, ça vous limite déjà. Il y a certains, on me demande aujourd'hui de traduire les livres. Ce sont des livres qui traitent en fait de la Torah, mais à un degré plus profond. Je ne m'adresse pas du tout à la Torah dans son niveau historique. Ça, c'est fait et refait. Donc, chaque parole de la Torah, en fait, c'est une transcription à un degré qui est déjà au niveau de l'allusion. C'est autre chose. Donc, ceux qui parlent déjà l'hébreu, ben, Zabatel, j'ai 5 livres maintenant à l'imprimerie. Ils sont maintenant à l'imprimerie. Ils sont rentrés il y a un mois. Et qui vont déjà sortir, ça va être 5 volumes, donc il y a à peu près 950 cours qui vont être à l'intérieur, tout ça c'est en hébreu. Il y a certains livres qui sont sortis en français, si vous êtes intéressé, je peux vous donner un téléphone, ça s'appelle Les Clés du Jardin. Et donc c'est aussi, mais c'est très léger, c'est très light, c'est gentil pour avoir quelque chose à dire à table, ça va. Voilà. Je vais vous donner le numéro de téléphone.
Il y a quelque chose à...
On est vraiment une autre.
Alors, je vais vous donner le numéro d'une femme qui s'occupe de ça.